Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la guérison des blessures du cœur. Dans Psaume 57, verset 1. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je le louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Nous avons tous reçu des blessures dans notre cœur depuis notre plus tendre enfance. Peut-être qu'on a été rejeté quand on était enfant, mis de côté, ou on a été malmené, bousculé. C'est peut-être même à l'âge adulte où on a connu des rejets. Peut-être c'est votre conjoint qui vous a rejeté. Peut-être c'est votre patron qui vous a évincé ou qui vous a mal jugé et vous avez été renvoyé. Il y a toutes sortes de souffrances qui s'emmagasine dans notre cœur. Et quand on regarde une vie, il y a des chemins de souffrance. Alors que faire quand on connaît le rejet, quand on connaît l'abandon, quand on a le cœur blessé, brisé? Nous savons que sur le plan humain, il n'existe pas de médicaments qui vont soulager un cœur blessé. Il faut autre chose. Il y a parfois des aides. Il peut y avoir des amis, il peut y avoir la famille. Il peut y avoir aussi certaines thérapies, comme la psychothérapie, mais on sait que quand les blessures sont profondes, nous n'avons pas les recours suffisants. Et il nous faut nous tourner vers Dieu, qui lui seul peut restaurer les cœurs brisés. Il en a le pouvoir, il en a la puissance. Et ce que j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, c'est que quel que soit l'état de votre cœur, Dieu a le pouvoir de le restaurer ce matin. Il n'est pas impossible pour lui de le faire. J'aimerais voir quelques aspects de la restauration du cœur dans la vie de David, dont nous avons lu ici un psaume au verset 1. Le premier point, c'est d'abord qu'il va trouver un refuge dans la caverne d'Adullam. Le verset 1 nous dit « Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül ». Il faut se rappeler que Saül, c'était non seulement le roi d'Israël, mais c'était aussi son beau-père. Donc, il y avait dans sa famille déjà un gros problème parce qu'il avait son beau-père qui voulait le tuer. C'est quand même pas commun, c'est pas évident à vivre. David donc subit la haine de Saül. Ce qui est aussi très troublant, c'est que David est un homme droit, il aime le Seigneur, il fait tout ce qui est bon et juste. Et pourtant, il subit l'injustice. Vous voyez, parfois nous n'avons pas toujours le retour de ce que nous donnons. Il a fait tout pour servir fidèlement Saül. Il a combattu au nom de Saül. Il a triomphé des Philistins pour la cause de Saül. Donc tout ce qu'il a fait était bien. Mais quoi qu'il fasse, et plus en fait il servait Dieu correctement, plus il ressentait la haine du roi. Et ça montre que derrière Saül, il y a une violence, il y a une haine qui n'est pas simplement humaine. On appelle ça le combat de la chair contre l'esprit. Saül est le roi qui est animé par la chair, c'est-à-dire il laisse les impulsions humaines, les désirs humains diriger sa vie et finalement il fait des mauvais choix. La chair est animée par cette haine. Et David est animé par l'esprit. Et quand vous mettez quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit avec quelqu'un qui marche par la chair, ça va faire un conflit. Ça va faire une relation conflictuelle. Parce que celui qui marche par la chair n'accepte pas les choses de l'esprit. Pour lui, elles sont contraires à sa pensée. Et même si vous aimez tout le monde, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, même si vous avez l'onction, et c'est très bien de le faire et d'aimer tout le monde, néanmoins, certains ne vous aimeront pas et se révolteront contre vous et se rebelleront contre vous. Ça, c'est la réalité spirituelle parce que nous sommes dans un monde où il y a la chair, où il y a l'esprit. Ça dépend de quel côté vous êtes. Alors, si deux personnes sont dans la chair, elles vont souvent s'entendre et s'associer. Si deux personnes sont dans l'esprit, elles vont s'entendre, elles vont s'associer. Mais une personne comme David qui marche dans l'esprit et une comme Saül qui marche dans la chair, là, il va y avoir une confrontation. Vous ne pourrez pas vous associer, vous ne pourrez pas marcher dans le même esprit, vous ne pourrez pas avancer ensemble. Donc, ça crée une blessure. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça se passe dans le cadre familial. Saül est le beau-père de David. Donc, ils ont des relations de famille. Ils se voient, ils mangent ensemble, ils partagent. Et donc, cette tension, elle va gangréner la famille. La famille est attaquée. David a dû fuir pour sauver sa vie, donc il a laissé sa femme, la femme qui est la fille du roi Saül, Michal. Il a dû la laisser à Jérusalem. Il a fui dans les déserts. Et ici, nous le retrouvons dans la caverne. Il trouve un refuge dans la caverne. Il est faible, il est seul, il a ses problèmes avec lui, il est dans sa caverne, il ne voit pas l'issue, on pourrait dire que il n'y a plus rien pour lui. Mais j'ai remarqué que dans cette situation, il est avec sa souffrance, il est avec son cœur blessé, mais Dieu va lui envoyer des personnes. C'est au 1 Samuel chapitre 22, verset 1. Alors qu'il est seul, alors qu'il n'a personne pour lui, qu'il n'a rien, qu'il a son cœur blessé, 1 Samuel 22, 1 dit « David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam ». C'est là qu'on le retrouve, au psaume 57. « Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. » Et il va trouver une source d'encouragement auprès de sa famille, auprès de son père, qui va être un soutien pour lui. Puis d'autres personnes vont s'ajouter à sa famille, on le sait par les autres récits. Il y avait des personnes en détresse, il y en avait qui avaient des créanciers, il y en avait qui étaient mécontents du roi Saül. Tous, ils se sont regroupés autour de David et petit à petit, il s'est retrouvé à la tête de 400 personnes. 400 personnes qui sont venues autour de lui. Et la Bible dit qu'il est devenu leur chef et c'est à partir de ces gens-là, en fait, que David, il va y avoir une influence de David sur eux. C'est-à-dire que David, c'est un homme de l'esprit, c'est un homme de paix. Un homme qui a des paroles édifiantes, réconfortantes. Ces gens qui étaient bancals, qui étaient dans l'opposition, qui avaient peut-être des mauvaises pensées, eh bien, au contact de David, par ces paroles édifiantes, ils vont être élevés. Ils vont être formés et ils vont devenir les vaillants hommes de David. Et vous les retrouvez dans la Bible, les vaillants hommes de David, ce sont ceux qui vont accomplir des exploits. C'est-à-dire qu'au contact de David, ils vont grandir et ils vont servir même Dieu. Il va y avoir Joab, par exemple, il va y avoir son chef des armées qui sera là avec lui. Il va y avoir plusieurs qui vont être célèbres par la suite. Donc, l'entourage de Saül n'était pas propice pour aider David. Il fallait qu'il y ait une coupure. Parce que en restant auprès de Saül, les gens étaient sous l'influence de Saül et donc ils marchaient mal. Mais maintenant, étant sous l'influence de David, hommes selon l'esprit, ils vont marcher droit. Pour nous, ça nous parle de l'influence de Christ parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ et maintenant nous sommes sous l'influence de Christ et nous devons être des modèles à l'image de Christ. Maintenant, celui qui est notre modèle, c'est Christ. Et c'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Nous témoignons de Christ. Il doit changer notre vie et nous devons donner le témoignage de Jésus. Ce que je remarque, c'est que David, oui, a trouvé refuge dans la caverne, mais surtout, il a trouvé refuge en Dieu. C'est au verset 2. Parce que son véritable refuge, il en a conscience, ce n'est pas la caverne, c'est Dieu qui est son refuge. Il dit au verset 2, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. » Vous voyez, le refuge où il est en Dieu. Il n'est pas dans la caverne. La caverne, c'est provisoire. La caverne, c'est un temps. On va dire, c'est une protection physique. Mais il a compris qu'il y a un autre refuge qu'il faut chercher, c'est en Dieu. Alors vous trouverez des refuges provisoires, et c'est bien, c'est pour un temps, mais surtout, cherchez votre refuge dans le Seigneur. C'est lui qui vous protégera, c'est lui qui vous conduira. Ne vous appuyez pas sur les secours humains, attendez-vous à l'action de Dieu. Regardez Jérémie 17, 5, qui est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, maudite soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alors David n'est pas tombé dans ce piège de prendre la chair pour appui, mais il a cherché son refuge dans le Seigneur. Alors les calamités ne durent pas toujours. Au verset 2, il est dit qu'il cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. C'est toutes les souffrances qu'il est en train de vivre. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Alors les calamités, elles sont peut-être nombreuses. Et il y a souffrance sur souffrance. Mais ce texte nous rappelle qu'elles vont passer. Elles ne vont pas rester toute la vie. Elles vont partir. Et David sait que c'est un passage difficile. Mais il dit, jusqu'à ce qu'elles soient passées. Et dans la foi, il croit qu'elles vont passer. Et que Dieu va le restaurer. Psaume 84, verset 6, voilà le genre de vallée par lequel nous pouvons passer aussi. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, donc en Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, la vallée des larmes, la vallée des souffrances, du rejet. Ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et ici, c'est le mot traverser, donc passer, les calamités vont passer, mais les vallées, nous allons les traverser. Et il y a des vallées à traverser, plus ou moins longues, ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer plusieurs années, mais c'est à traverser. Elles ne durent pas toujours, on en ressort toujours plus fort. Alors vous connaissez peut-être ces calamités, une accumulation, ces vallées de Baca, mais vous pouvez trouver en Dieu le réconfort, le refuge, la paix du cœur. Plus vous regardez les calamités, plus vous regardez vers la vallée de Baca, plus vous allez vous décourager. Mais David entraînait son regard pour regarder vers le Seigneur. Alors, vous ne devez pas simplement regarder les calamités, mais vous devez leur parler. David dit aux calamités, « Calamité, vous passerez. Calamité, vous passerez, vous ne resterez pas. » Jésus nous a enseigné de parler aux arbres et aux montagnes. Il nous a dit de dire aux montagnes, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Alors, c'est une image, bien sûr, mais quel est le sens? Eh bien, il y a des difficultés qui nous semblent insurmontables, comme ces montagnes. Eh bien, nous devons leur parler. Nous devons leur adresser un ordre. Alors, pourquoi parler aux montagnes et aux arbres? Parce que si ce n'est pas vous qui leur parlez, c'est eux qui vous parlent et qui vous découragent. Mais si c'est vous qui leur parlez, c'est eux qui se soumettent et qui partent. Le deuxième point, c'est au verset 3. C'est maintenant une prière qui déclenche la bénédiction. « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Verset 4. « Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. » David est donc dans sa caverne et il sait que sa prière va être entendue par Dieu. Alors, avec ses yeux, s'il voit les calamités, les persécutions, l'opposition, l'injustice, le mépris, lorsqu'il ferme les yeux et qu'il commence à prier, il voit la gloire de Dieu, il voit la main de Dieu. C'est cette vision-là qu'il nous faut. Même si nous sommes dans la caverne aujourd'hui, même si nous sommes seuls, abandonnés, méprisés, nous avons toujours la possibilité de fermer nos yeux et de prier le Seigneur. Regardez Jésus. Quand il était venu pour Lazare était déjà mort. Il est donc devant le tombeau était fermé. Mais qu'a fait Jésus? Il n'avait pas les yeux fixés sur le tombeau et sur la mort. La Bible dit qu'il a levé ses yeux. C'est dans Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Lazare était bien mort dans le tombeau, mais Jésus lève les yeux en haut. Et il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà la démarche de l'enfant de Dieu. Nous levons nos yeux vers le ciel. Nous nous attendons à l'action du Seigneur. La prière nous met en connexion avec Dieu. Et quand vous priez, vous ne le savez pas, enfin, peut-être vous ne le voyez pas, vous pouvez le savoir dans votre cœur, mais votre prière, elle est en train de monter vers le trône de Dieu. C'est écrit dans Actes 10, au verset 4, avec Corneille qui, lui, était un craignant Dieu, il faisait des prières à Dieu, il n'était pas encore complètement engagé avec le Seigneur. Alors, il est dit, les regards fixés sur lui et saisis de froid, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Donc, Corneille priait depuis des mois, depuis des années, il priait. Il ne s'en rendait pas vraiment compte, mais ses prières étaient en train de monter devant le trône de Dieu. Et à un moment donné, Dieu intervient dans sa grâce. C'est ce que fait David. Il fait monter ses prières vers le trône de Dieu. Pour David, Dieu est le Très-Haut. Ça veut dire qu'il croit que la puissance de Dieu est sans limite, qu'il est au-dessus de ses calamités, au-dessus de ses problèmes. Déjà, quand on prie Dieu, il nous faut avoir une bonne vision de Dieu, qu'il est tout-puissant et qu'il peut tout changer. Dieu n'est pas surpris par nos problèmes. Dieu a en fait déjà les solutions à nos difficultés, à nos calamités. Lorsque Abraham est appelé par Dieu à offrir Isaac en sacrifice, il allait le faire, lui, croyant que Dieu allait même le ressusciter, c'est parce qu'il était prêt à l'égorger. Mais Dieu avait déjà pourvu au bélier qui allait être substitué à Isaac. En fait, le bélier était là, mais Abraham ne le voyait pas. Il ne le savait pas encore. La solution était déjà prête parce que Dieu avait déjà préparé la solution, le sacrifice. Ce n'était pas Isaac, c'était le bélier. 1 Corinthiens 10, 13, c'est Paul qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » C'est une promesse que même si nous sommes dans la caverne, même si nous sommes abandonnés de tous, avec la tentation, avec l'épreuve, il y a un moyen qui est là pour en sortir que Dieu a préparé. David est donc dans cette situation très difficile, mais il crie à Dieu, c'est-à-dire il va prier et il croit que Dieu va agir en sa faveur. Il manifeste la foi. Si avec ses yeux, il voit bien la réalité, parce que nous ne sommes pas aveugles, nous voyons bien les difficultés, et c'est assez démoralisant, mais avec sa foi, il entretient son cœur, il garde son cœur dans la paix, parce qu'il tourne son cœur vers Dieu. On peut être à la fois dans la caverne et garder un cœur tourné vers Dieu. Ce n'est pas incompatible. Et c'est peut-être quelque chose que nous devons apprendre. C'est apprendre à voir les choses de Dieu. C'est un petit peu ce qu'a fait Moïse. Moïse, il avait éduqué son regard. Il est dit dans Hébreux 11, 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi, et car il se montra ferme, et c'est la fin du verset qui est pour nous une leçon, comme voyant celui qui est invisible. C'est ça l'éducation que nous devons donner à nos yeux, c'est de voir celui qui est invisible. Regarder vers Dieu par la foi, c'est donc pas un regard naturel, c'est un regard spirituel et que Dieu nous aide pour le mettre en pratique. Alors j'arrive au verset 5 à 7, le troisième point, c'est maintenant les souffrances émotionnelles qu'il va exprimer. Verset 5, « Mon âme est parmi les lions ». Alors évidemment, quand il parle des lions, il parle des gens qui lui veulent du mal, des souffrances, des rejets qu'il traverse, c'est une image. « Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme », on voit tous les problèmes relationnels qu'il connaît, « et dans sa famille et parmi les gens qui sont autour de lui, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et des flèches, et ils ont pour langue un glaive tranchant. » Et au verset 7, « Ils avaient tendu un filet sous mes pas, Mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. » Il parle aussi des pièges qu'on lui tend, des gens qui sont contre lui. Il parle à Dieu, il fait état à Dieu de toute sa souffrance et des situations émotionnelles. C'est-à-dire que son cœur est brisé par toutes les souffrances qu'il connaît et dans sa famille et dans ses relations. Son père, quand on regarde un peu son histoire, son père ne croyait pas en lui au début, puisque Samuel était clair, il avait demandé à Isaïe, le père de David, de convoquer tous ses fils. Et Isaïe a obéi en partie. Vous voyez, c'est toujours un problème quand on obéit en partie. On obéit en partie à la volonté de Dieu, on fait peut-être 90%, mais en fait, il manquait les 10%, il manquait David. Donc le père a obéi en partie. Il aurait pu faire échouer la mission, puisque David n'étant pas là, Samuel ne savait plus. Il était venu pour oindre le futur roi. Il fait passer tous les fils, mais personne ne correspond. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Ça veut dire qu'Isaïe, en n'obéissant pas complètement, il aurait pu faire échouer, il aurait pu faire capoter le plan de Dieu ici. Mais l'Esprit a parlé et Samuel a compris qu'il manquait quelqu'un. David a été convoqué et il a été oint. Mais finalement, David a été oint contre l'avis de son père, qui lui-même ne voulait pas qu'il soit présent. Alors peu importe l'attitude du père, de la mère, des responsables, le plan de Dieu s'accomplira. Peut-être votre père ne vous a pas aimé, peut-être votre père vous a battu, peut-être il était alcoolique, peut-être il vous a mal éduqué. Ce n'est pas pour cela que votre vie va être un échec. Parce que Dieu restaure les cœurs brisés et il donne une espérance et il donne un avenir. Alors peut-être vous avez une souffrance, vous avez une blessure parce que le témoignage qu'on a donné dans votre famille n'est pas bien. Mais venez au Seigneur qui est capable de restaurer les cœurs brisés. En tout cas, ce que je vois avec David, c'est que malgré le rejet, on l'a mis de côté, mais Dieu a permis qu'il soit quand même au bon endroit et on doit faire confiance à Dieu et non pas aux hommes. Psaume 56, versets 4 à 5, c'est dit comme ça. « Quand je suis dans la crainte en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Finalement, notre vie, elle n'est pas entre la main des hommes. Elle est entre la main de Dieu. Même quand on est opéré par un médecin, notre vie, elle n'est pas entre les mains du chirurgien. Elle est entre les mains de Dieu. « Que peuvent me faire les hommes ?» Ses frères aussi le méprisaient puisqu'ils ont constaté que Dieu l'a choisi, mais Éliab était jaloux. Éliab, il aurait bien voulu être oint à la place de David, mais il n'a jamais eu cette onction. Et lorsque David est envoyé sur le champ de bataille par son père avec ses fromages, avec les pains, c'était pour encourager les frères. Donc David, il vient toujours dans une bonne attitude pour bénir, pour encourager ses frères, mais dès que Éliab, le frère aîné, voit David, il le soupçonne de mal. Il voit le mal. Mais pourquoi tu es venu ? Je vois l'orgueil dans ton cœur. Vous voyez, c'est étonnant. David n'a pas d'orgueil, il ne vient pas avec de mauvaises pensées, mais Éliab voit le mal. Il voit de la malice. Et ça, c'est une réalité, c'est que certains vont vous analyser d'une mauvaise manière. Ils vont voir en vous du mal, ou ils vont voir de la malice que vous n'avez pas. Ils vont analyser vos faits et gestes d'une manière négative parce qu'eux-mêmes sont tournés avec un logiciel négatif. Donc, ils analysent vos faits et gestes d'une manière négative, mais le problème, ce n'est pas vous, c'est leur vision. Alors, presque, ils se seraient battus. Alors, David le laisse là, il va plus loin. Il ne voulait pas rentrer dans un conflit avec son frère. Un peu plus tard, c'est son beau-père qui, Saül, fait des plans pour le tuer. Enfin, il est dans des situations complètement incroyables au niveau familial. Saül n'a jamais accepté la bénédiction qu'il y avait sur la vie de David. C'est dans votre propre famille. Alors, dans votre propre famille, il y a des déchirements. Il y a peut-être le beau-père contre le gendre ou la belle-mère contre la belle-fille. Il y a des oppositions qui se dressent. Néanmoins, malgré tous ces déboires, le plan de Dieu s'accomplit pour la vie de David. Mais c'est vrai qu'il y a une grande bénédiction sur la vie de David. Il a une onction royale. Dieu est avec lui. Il a vraiment le Saint-Esprit avec lui. Et avec cette bénédiction, arrivent toutes sortes d'oppositions et de difficultés. Il faut admettre que quand on reçoit de grandes bénédictions de la part du Seigneur, viennent aussi de grandes oppositions et de grandes difficultés. Ça fait aussi partie des épreuves. Beaucoup de chrétiens aimeraient bien avoir juste la partie de la bénédiction, mais sans avoir le rejet et les difficultés qui vont être générées par cela. Mais les deux sont ensemble. Et puis un peu plus tard, c'est son fils qui va faire un plan derrière le dos de David pour le destituer. Et effectivement, il va réussir en plus. C'est Absalom qui va, lorsque les gens allaient voir le roi, alors il avait 50 personnes qui couraient devant son char, il avait fait tout un, pour paraître tout plus glorieux. Et puis quand quelqu'un venait voir le roi, il l'arrêtait, il disait, mais ta cause ne sera pas entendue, viens avec moi, moi je prendrai ta cause en main. Et il attirait les gens à lui contre le roi, son père. Et donc, il était en train de calomnier le roi, il était en train de dire du mal de David, et finalement, David a dû fuir le palais royal. Mais voyez, ce que Absalom a vécu, c'est ce que dit David ici, « Ils avaient creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. » Et en faisant ce plan, Absalom est tombé lui-même dans le piège qu'il avait tendu à David. Et je termine avec la restauration, c'est au verset 8. Après avoir exprimé toutes ses souffrances, on n'en a parlé que de quelques-unes, mais il dit à Dieu, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. » Au milieu de ses blessures émotionnelles qu'il a partagées à Dieu, qu'il a étalées devant Dieu dans la prière, son cœur a été affermi, son cœur a été restauré, son cœur a été fortifié, parce que David était au plus bas. Il aurait même pu devenir amer. Voyez, si nous ne soignons pas notre cœur, si nous ne demandons pas à Dieu de guérir nos blessures, on peut devenir amer et avoir un cœur rebelle, un cœur dur. Il aurait pu même tout abandonner, fuir. Mais non, son cœur a été affermi par Dieu. Pour David, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Les blessures émotionnelles ne sont pas un problème pour Dieu. Regardez le psaume 147, verset 3. Venez à Dieu avec un cœur brisé. Il est dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, ça c'est Dieu, et il panse leurs blessures. Dieu va vous montrer votre vraie valeur. Dieu va vous réhabiliter dans votre service. Dieu va vous donner un nouveau départ malgré vos échecs. Les échecs, on en a tous dans la vie. Mais il y a deux manières de voir les échecs. Soit ces échecs vous dévalorisent et vous dites, tu es incapable, tu n'y arriveras jamais. Ou soit vous prenez ces échecs d'aujourd'hui comme des tremplins pour demain. Et vous vous dites, je vais tirer des leçons de ces échecs pour aller de l'avant. Eh bien, c'est cette manière de faire que nous devons adopter. C'était la manière aussi de faire de David. Dieu seul peut restaurer les cœurs brisés. La situation de David n'a pas changé. Il est toujours dans sa caverne, il est toujours dans ses problèmes. Mais néanmoins, la prière de la foi, la guérison de son cœur, eh bien, ça l'a encouragé pour aller de l'avant et continuer. L'accusateur peut-être vous dira, c'est pas la peine, tu t'en sortiras jamais, tous t'ont abandonné, mais venez au Seigneur, recevez sa guérison. Et puis le psaume se termine par une action de grâce, c'est-à-dire que David reconnaît l'intervention de Dieu et il élève le nom de Dieu. En conclusion, on voit que David s'est réfugié dans une caverne provisoirement, mais surtout, le vrai refuge, il l'a trouvé en Dieu et c'est là que nos cœurs vont chercher le refuge ce matin. Votre cœur est peut-être brisé parce que vous avez été abandonné, parce que vous avez été rejeté, méprisé, vous avez été dévalorisé ou alors on vous a dit des paroles blessantes. Comme David, venez chercher votre refuge dans le Seigneur, à l'ombre de ses ailes. Faites monter votre prière vers Dieu, du fond de la caverne. Et là, vous pouvez recevoir la guérison de Dieu, la guérison des cœurs blessés, des cœurs brisés, et ensuite exprimer votre reconnaissance. On va prier quelques instants. Oui, Seigneur, ta parole est certaine. C'est que tu as un plan de restauration, un plan de guérison pour tous ceux qui ont le cœur blessé, brisé par les épreuves de cette vie, par les souffrances, par les paroles dures, par les paroles blessantes, par peut-être même des membres de la famille qui se sont redressés contre vous. Mais Seigneur, nous voulons croire que tu as, toi, une huile de guérison. Toi seul peux panser les blessures. Toi seul peux consoler un cœur qui est blessé, brisé, et toi seul peux relever celui qui est abattu. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de David, comment il a pu trouver son refuge en toi, comment il a trouvé dans la prière le chemin pour épancher son cœur et recevoir cette paix intérieure, cette guérison que toi seul peux procurer. Et nous te prions, Seigneur, que chacun de nous, nous puissions suivre le même chemin, d'être de ceux qui cherchent en toi un refuge, qui cherchent en toi la solution et de recevoir la grâce d'en haut pour panser nos blessures. Oui, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.